autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer? Comment la science infuse?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver autour de notre première table ronde de la saison avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique venus comme chaque mois avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner, amis auditeurs qui êtes loin d'ici. Nous sommes en direct avec Cécile Lestienne de Cerveau et Psycho. Bonjour Cécile.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Caroline Tourbe de Science et Vie. Bonjour Caroline, c'est la rentrée hein. Et Mathieu Novak de Science et Avenir, c'est bien ça hein ?
C'est ça, bonjour Caroline, bonjour à tous.
Et Philippe Pageot de La Recherche, bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Nous allons découvrir ensemble aujourd'hui comment mieux apprendre, ou pas, grâce aux sciences cognitives. Nous interroger également sur notre mémoire, qui flanche parfois, et sur l'origine de nos souvenirs, en insistant aussi sur l'importance du sommeil, à ne pas oublier, en cette rentrée forcément agitée autour de la question « Comment la science infuse et se diffuse ?» Bienvenue.
Hello. On behalf of the entire NASA family, I would like to congratulate NASA legend Katherine Johnson as she celebrates her 100th birthday. With slide rules and pencils, Katherine and her pioneering colleagues helped our nation's space program literally get off the ground.
Nous nous joignons au porte-parole de la NASA pour souhaiter un très bon 100e anniversaire à Katherine Johnson, cette extraordinaire mathématicienne afro-américaine qui, comme le dit ce porte-parole, a fait décoller la NASA avec un simple crayon et du papier, popularisée par le film Les Figures de l'Ombre avec ses collègues mathématiciennes et ingénieurs afro-américaines du Centre de Recherche de l'Anglais en Virginie, désormais rebaptisé Centre Katherine Johnson. Leurs calculs ont été essentiels à tous les grands programmes des vols spatiaux. La moindre des choses donc que la NASA lui rende un hommage appuyé. Qu'est-ce que ça vous inspire, Mathieu Novak?
D'abord que faire travailler son cerveau, ça conserve, mais surtout c'est un très bel hommage parce que c'est une femme extraordinaire et ce film que je ne peux que recommander, Les Figures de l'Ombre, le montre vraiment très très bien parce que c'est une femme qui a été essentielle notamment dans l'envoi de John Glenn dans l'espace et c'est un moment où les premiers gros calculateurs arrivaient à la NASA. On ne savait pas encore bien s'en servir, mais normalement les calculs de trajectoire c'était les premiers qui étaient faits par ordinateur. Et John Glenn, il a dit, et on le voit très bien dans le film, vous allez me recalculer ça à la main, personne n'était capable de le faire, sauf elle. Elle, une femme noire, calculatrice, c'est pas son caractère, mais c'était son métier.
Capable de faire de tels calculs.
La seule qui était capable de faire ça, et c'est elle qui a finalement donné le feu vert, et tout ça dans un contexte où les Américains venaient de se faire battre par les Russes pour l'envoi du premier homme dans l'espace. Donc, de toute façon totalement absurde, la ségrégation était encore à un niveau extrêmement élevé et passait avant le reste.
Et c'est une femme, donc une mathématicienne d'origine afro-américaine qui a permis ce décollage de la NASA, Cécile Lestienne.
Ah oui, comme Mathieu, je recommanderais le film qui est assez extraordinaire, qui forcément doit être romancé et donc un peu dramatisé, mais quand même il y a des scènes absolument formidables où on voit cette pauvre chercheuse qui est obligée de courir pour traverser tout le campus juste pour aller aux toilettes parce qu'il n'y a pas de toilettes évidemment pour les Afro-Américains dans l'endroit où il y a les chercheurs.
Évidemment, on ne peut pas être les deux en même temps, bien sûr. 100 ans, elle a eu 100 ans le 26 août dernier. Bon anniversaire donc à Katherine Johnson avec cet hommage appuyé de la NASA, moins réjouissant dans l'actualité de cette rentrée, même désespérant, l'incendie qui a ravagé le musée national de Rio, l'un des plus anciens et des plus prestigieux musées du Brésil, qui abritait des millions de pièces de valeur, dont un squelette de dinosaure exhumé dans le Minas Gerais. C'est aussi le plus ancien fossile humain découvert au Brésil, tout ça est parti en fumée pour cause de négligence, de manque de moyens, Cécile Estienne.
Il semblerait, en tout cas effectivement, que la culture et la science ne soient pas protégées en ce moment au Brésil, puisqu'il y a eu des coupes budgétaires très fortes ces dernières années, ce qui expliquerait l'état de délabrement du musée, qui donc explique l'incendie. Oui, c'est une catastrophe bien sûr, hein, parce que je crois que c'est 20 millions de spécimens qui étaient conservés, de fossiles donc, qui étaient conservés dans ce musée. Et vous savez, quand vous avez une telle collection, dedans il y a forcément des fossiles très très précieux que vous ne pouvez pas remplacer. Des types par exemple, c'est-à-dire des fossiles sur lesquels ont été décrits une espèce ou ceux qui ont une histoire particulière qu'on ne pourra pas remplacer. Et voilà, donc c'est fort dommage.
On comprend la colère des chercheurs, des étudiants brésiliens qui ont manifesté. Le Brésil doit reconstruire son histoire, d'autant que cette tragédie aurait pu être évitée, Caroline Tour.
Oui, et puis je voulais aller dans le sens de ce que disait Cécile, c'est aussi souvent
souvent dans les musées importants comme celui-là, il y a aussi des pièces qu'on n'a pas encore explorées. C'est-à-dire qu'il peut même y avoir des choses... Il y aurait eu potentiellement dans les réserves de futures découvertes, des choses dont on n'avait pas encore estimé la valeur que ça pouvait avoir. Et là, pareil, parti en fumée.
Mathieu.
D'autant que ce n'était pas seulement un musée, mais c'était aussi un centre de recherche. Donc c'est là où les chercheurs avaient tous leurs documents, toutes leurs archives. Ce n'était pas uniquement un lieu, je dirais, d'exposition.
Un peu comme le Muséum d'Histoire Naturelle à Paris ou ailleurs. Allez, on s'arrête sur l'actu préhistorique de l'été, autour de Denisova 11, où la preuve par l'ADN du métissage il y a 90 000 ans de deux espèces humaines qui occupaient alors la Terre, Néandertal et Denisovien. C'est l'analyse ADN de Denisova 11, une adolescente métisse de 90 000 ans qui ouvre plein de questions et qui a suscité Cécile Estienne. Moi, elle m'a frappée, cette adolescente métisse d'Edisova Néandertal.
Oui, la découverte est un petit peu controversée. Effectivement, en fait, c'est sur un tout petit bout d'os, hein, en fait, qui a été découvert il y a déjà quelques années, que l'équipe du Max Planck, dont le fameux Svante Paabo, voilà, ont fait une analyse ADN et ont montré qu'effectivement, il semblerait que c'est d'abord que c'était une fille, ça c'est sûr, parce qu'on peut le voir avec l'analyse génomique, qu'elle devait avoir 13 ans, ça ils le savent à peu près grâce à l'épaisseur de l'os retrouvé, et donc qu'elle aurait 90 000 ans, et donc elle a été retrouvée dans une grotte en Sibérie. Et sa mère devait être néandertalienne, et son père denisovien. D'après les chercheurs, ce qu'ils ont vu dans les gènes montre que c'est vraiment ça. C'est pas qu'elle était issue d'une population qui était déjà métisse, voilà. Parce qu'ils ont vu qu'effectivement, elle devait avoir eu un lot de chromosomes denisoviens et un lot de chromosomes néandertal, ce qui prouverait qu'effectivement, voilà, c'était une jeune fille métisse. Voilà. Alors par ailleurs, ce qui est amusant, c'est que Denisova, on le connaît pas, on n'a jamais retrouvé de fossiles, enfin très peu, enfin des tout petits bouts de fossiles, et qu'en fait, c'est l'analyse génétique déjà de ces premiers fossiles qui avait donné l'idée qu'il y avait une nouvelle espèce. Alors justement, espèce par espèce, ils font des enfants,
voilà,
est-ce que c'est vraiment des espèces ?
Ça remet tout en question.
Voilà.
Et plusieurs espèces humaines, ou plus buissonnantes qu'on le croyait, en tout cas plus métissées qu'on l'imaginait.
À chaque fois qu'on fait des découvertes, on tombe en ce moment, ces derniers temps, sur ça. Parce qu'effectivement, toutes ces populations très anciennes devaient se rencontrer, se mélanger beaucoup plus qu'on ne l'a dit. Il y a aussi le fait que pour les chercheurs, découvrir une nouvelle espèce, vous savez, voilà, c'est la gloire assurée. Donc, on cherche toujours à faire des frontières très étanches, mais elle n'était pas probablement pas.
Quelle question ça ouvre pour vous, Mathieu ?
Il faut faire preuve de prudence, parce qu'on sait que les Néandertaliens et les Denisoviens se sont séparés environ 400 000, 500 000 ans, mais comme disait Cécile, on travaille sur des tout petits bouts d'os. Là, c'est un os de 1,5 cm, et Denisova, on ne sait pas du tout quelle tête il avait. Donc on est en train de faire des études génétiques qui sont extrêmement solides, il ne faut pas les remettre en cause pour autant, hein, et qui donnent un résultat totalement inattendu, avec deux espèces cousines de l'espèce humaine, dont on pensait qu'elles étaient séparées, dont l'une, on ne connaissait absolument rien, et là on voit que finalement ils devaient se fréquenter pas mal si au bout de trois petits os on arrive déjà à prouver qu'ils n'avaient pas de mal à passer un bon moment ensemble.
En tout cas, ça remet pas mal de choses en question autour de la question comment la science infuse et se diffuse. Allez, on va maintenant faire appel à votre mémoire.
Vendredi dernier, Wang Feng, le champion du monde en titre de mémorisation, a remporté les championnats mondiaux de mémoire à Guangzhou, dans le sud de la Chine, en battant simultanément plusieurs records mondiaux. Pendant trois jours, plus de 120 concurrents, âgés de 9 à 74 ans, ont mesuré leur rapidité et leur endurance dans 10 disciplines différentes de mémorisation. Parmi les défis, les concurrents ont dû mémoriser 30 paquets de cartes en 1 heure, 3500 nombres binaires, 400 nombres dictés à 1 seconde d'intervalle, associer plus de 90 noms aux visages correspondants et mémoriser un paquet de cartes à jouer en moins de 30 secondes.
Des championnats de la mémoire qui seront même intergénérationnels cette année à Montpellier pour la troisième édition de la Semaine de la Mémoire. Ce sera du 17 au 21 septembre prochain. On va vous en reparler très vite, car la mémoire est au cœur de cette rentrée. Elle fait même la une de Science et Vie, Caroline Tourbe, de ce mois de septembre, avec autour des travaux assez stupéfiants d'un neurobiologiste américain qui aurait découvert les molécules du souvenir dans notre ADN, c'est ça ?
On est parti dans ce dossier, on tournait déjà depuis un moment autour du sujet, c'est-à-dire qu'on avait bien remarqué qu'il se passait des choses autour de la recherche fondamentale sur ce qui fait l'étoffe de nos souvenirs, de quelle matière, de quelle étoffe sont faits nos souvenirs. Et puis, il y a quelques mois, David Glanzman a publié une étude qui était absolument stupéfiante, Oui, arrivant après donc d'autres études autour des molécules, il a réussi à montrer qu'il était possible de transférer un souvenir, d'injecter un souvenir d'un cerveau d'un individu vivant à un autre. Alors, ce n'est pas des humains, c'est des sortes de petites limaces très connues des laboratoires. C'est Aplysia, c'est un animal qui est très utilisé justement dans l'étude de la mémoire.
Et on a réussi à transférer le souvenir de l'une dans le cerveau de l'autre.
Pour vous expliquer la manipulation, une de ces petites limaces, enfin, d'ailleurs que pas si petite que ça, qui ressemble plutôt à une grosse limace, on lui apprend à se méfier d'une décharge électrique, à pas aller dans une direction, il va y avoir une décharge électrique, elle rétracte une partie de son corps quand la décharge apparaît. Donc elle mémorise ce souvenir, elle a parfaitement le souvenir de la douleur, donc elle fait attention. Ils ont réussi à ponctionner dans ses neurones des petites molécules précises et à les injecter dans le cerveau d'une autre limace qui passait par là, qui elle n'avait pas du tout de souvenir, elle ne lui avait jamais montré ni expliqué quoi que ce soit sur le choc électrique, il lui injecte, et là, en quelques heures, la limace à qui on a fait l'injection, eh ben, elle a le souvenir qui s'est imprimé dans son cerveau. C'est-à-dire qu'elle a parfaitement compris que si elle allait par là, elle allait se prendre une décharge et donc elle se rétracte.
Ce qui veut dire que nos souvenirs, enfin si on extrapole, voilà, nos souvenirs
seraient injectables. Donc on est parti sur cette idée qui est à la fois effrayante et amusante et qui ouvre vers un univers de science-fiction totale. Il y a pas mal de films déjà qui ont fait ce jeu de transférer des mémoires. Là, ce qui est intéressant, c'est aussi que, partant sur ces recherches qui restent des recherches fondamentales, on voit quand même que ça remet en question un dogme qui est quand même celui d'une mémoire dont le réseau serait le support. Les souvenirs tiennent dans le réseau, c'est le réseau, la plasticité, les interconnexions entre neurones qui sont la clé de nos souvenirs. Et là, typiquement, non. C'est-à-dire qu'on n'a pas injecté, il n'y a pas eu de transformation du réseau, il n'y a eu rien du tout. Il y a quelques molécules injectées de neurone à neurone et pif, ça suffit pour faire apparaître un souvenir.
Et ça ouvre aussi plein de pistes, plein d'applications possibles ou d'autres, une autre approche justement de la mémoire et de nos souvenirs.
Exactement. C'est aussi comme si on n'avait jamais regardé toute une partie d'une bibliothèque moléculaire qui pourrait permettre d'améliorer, de réparer, de transformer la mémoire. Pour expliquer le processus qui est en jeu dans cette injection de mémoire, le chercheur explique qu'à l'intérieur des neurones, il y a de l'ADN, comme dans toutes nos cellules, quasiment exclusivement donc de l'ADN, et qu'autour de cet ADN, il y a des petites molécules qui vont sculpter un peu sa forme, la façon dont il va fonctionner. Que ce sont ces molécules-là qui vont transformer la forme de l'ADN et qui vont être l'empreinte du souvenir. Et ça, ces molécules-là, ben on peut agir sur elles. On peut faire en sorte, du coup, de verrouiller un souvenir plus fortement, ou au contraire, de le faire s'effacer. Donc, il y a des recherches. Et c'est venu, ces recherches fondamentales, elles viennent confirmer aussi des intuitions pharmacologiques. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des molécules dont on avait vu qu'il y avait des actions, mais qu'on ne comprenait pas du tout. Et du coup, les chercheurs qui sont sur la science appliquée, qui sont sur la recherche fondamentale, ont commencé à se parler, à s'intéresser évidemment. Et du coup, on est déjà dans des essais cliniques pour certaines molécules qui agissent sur les souvenirs de cette façon totalement inattendue, sans rapport, encore une fois, avec des interconnexions, avec un réseau. On est vraiment sur une sorte de mémoire universelle, de souvenir universel.
Extrêmement intéressant, ça ouvre plein de pistes. On en reparlera peut-être mardi prochain parce qu'on reçoit ici même Francis Eustache, grand neuroscientifique spécialiste de la mémoire, qui nous parlera lui de la mémoire du futur, ça existe aussi, mais on lui posera la question sur cette mémoire épigénétique, sur ces molécules propres à nos souvenirs. Pour en savoir plus donc sur la mémoire, dossier complet sur les dernières recherches à lire dans Science et Vie, dont nous avons quelques exemplaires à vous faire gagner, amis auditeurs, n'oubliez pas de nous les demander par mail sur notre page Facebook. Please don't forget my name, Gemma and the Traveller sur RFI.
Please don't forget.
autour de la question sur internet www.rfi.fr.
Gemma and the Traveller sur RFI. Please don't forget my name. Mais comment faire quand on la perd? La mémoire, Science et Avenir, en partenariat avec la Semaine de la Mémoire à Montpellier, fait le point sur les recherches sur la maladie d'Alzheimer. Témoignage. Je me suis rendu compte surtout que j'avais des problèmes de mémoire. Moi qui avais une très très grande... J'avais vraiment beaucoup de mémoire. J'avais appris dans ma jeunesse beaucoup de récitations, de choses que j'adorais. Et là, au stupeur, je me suis dit mais je ne peux pas retenir, c'est pas possible, c'est une catastrophe. Mathieu Novak, Alzheimer est à la une de Science et Avenir. Vous faites le point sur les dernières recherches et les dernières découvertes sur cette maladie avec, là on est aussi dans les nouvelles pistes, une nouvelle piste virale.
Oui, une nouvelle piste virale qui était un peu comme une surprise. C'est une étude américaine qui a étudié beaucoup de cerveaux, 1400, et étudié de façon totalement systématique et à l'aide de gros ordinateurs en voyant ce qu'il y avait là-dedans comme ADN, comme ARN. Ils ont trouvé une quantité significative de virus. Et c'était de façon un peu inattendue. Alors c'est un virus de l'herpès. C'est pas les herpès sont c'est une grande famille de virus. Donc c'est pas ceux qui sont impliqués dans les herpès buccaux ou génitaux. C'est plutôt les virus qui sont impliqués dans la roséole chez les enfants. Bon, en tout cas ils étaient là de façon significative.
Chez les malades d'Alzheimer.
Chez les gens qui avaient un stade avancé de la maladie d'Alzheimer. Voilà. On peut pas en dire plus pour le moment. On peut pas dire que le virus a causer la maladie, pour le moment c'est juste une corrélation. Mais ça ouvre quand même des perspectives assez énormes, parce que si, là je projette, s'il y avait vraiment une vraie corrélation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on pourrait prévenir la maladie par de la vaccination. Bon, on n'en est pas du tout là. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le virus, sans doute, intervient quelque part dans les mécanismes de la maladie.
Et dans des cerveaux qui sont un peu enflammés ou alors, après voilà. Des neuroinflammations,
c'est ça? Ça rejoint une autre hypothèse qui est une hypothèse de recherche aujourd'hui très très forte, qui est celle de l'inflammation. Alors l'inflammation, c'est des mécanismes de protection du cerveau. Et ce qu'on observe, c'est que il y a une piste qu'on creuse depuis le début. D'ailleurs, les essais cliniques qui n'ont pas donné des très bons résultats ces derniers temps étaient là-dessus. C'est on a, chez le cerveau des malades, une accumulation de protéines, ce qu'on appelle la protéine bêta-amyloïde. Et donc, dans cette hypothèse-là, on dit que, en fait, peut-être que cette agrégation au début protège d'une infection. On a une inflammation ici. On a des cellules qui normalement travaillent à l'équilibre du cerveau, qui le nourrissent, qui s'appellent la microglie, qui travaille aussi à protéger le cerveau, et peut-être que ce mécanisme pourrait s'emballer, et en fait, en s'emballant, aller à l'encontre de ce qu'il veut faire, c'est-à-dire plutôt que de virer, dégager ces agrégats à protéines, vont en attirer d'autres, et vont rendre le problème plus aigu encore.
En fait, si les chercheurs cherchent tant de pistes différentes, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne sait absolument pas soigner Alzheimer, en tout cas guérir, on n'en parle même pas. Un des chercheurs que vous avez interviewé dit qu'au fond, il faut commencer à comprendre comment prendre soin des malades atteints d'Alzheimer. On en est là quand même aujourd'hui.
Oui, on est dans un contexte qui est très difficile. C'est pour ça qu'on a voulu faire ce point. C'est que quand on regarde la recherche clinique, il y a des essais qui n'ont pas donné les résultats attendus. Il y a en même temps, cet été, les 4 médicaments qui étaient remboursés en France, alors même si c'était remboursés que à 15%, qui ne sont plus remboursés. Donc c'est donner un signal quand même de dire on n'a pas de traitement qui marche, quoi. Et donc ça va, il y a certains médecins que ça scandalise, et il y en a d'autres qui, comme Olivier Saint-Jean, qui travaille à Pompidou, qu'on a interviewé, qui dit bon, mais en fait, il faut voir les choses différemment. C'est qu'on ne voit pas guérir les malades, on va en prendre soin. En anglais, ils disent qu'on parle de cure a care. C'est-à-dire qu'on arrête de chercher des médicaments, parce qu'on n'en a pas pour le moment, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en aura pas dans le futur, il ne faut pas perdre espoir. Mais que pour le moment, il faut prendre soin du malade, que ce soit de sa mémoire, que ce soit de ses mouvements, de prendre en charge son anxiété. Et lui, effectivement, il va très très loin, parce qu'il dit que Alzheimer, c'est une construction sociale et que ça ne fait que traduire finalement le déclin cognitif qui est lié à l'allongement de la vie et qui est un processus de fin de vie relativement naturel et qu'il faut accompagner.
Comment regarder autrement ces maladies? Et puis il y a des pistes musicales. On avait reçu ici même des chercheurs comme Hervé Platel ou Emmanuel Bigan qui, en faisant écouter de la musique, parviennent à faire apprendre de nouvelles chansons à des malades d'Alzheimer. Donc il y a des pistes pour en prendre soin. Alzheimer, le point sur la recherche, dossier complet à lire dans Science et Avenir de ce mois de septembre, dont je vous rappelle, amis auditeurs, que nous avons quelques exemplaires à vous faire gagner. Et pourquoi ça? Parce que ça fait du bien sur RFI, Antonin, remix Paul Wenpan, et ça fait du bien.
ça fait du bien. Le matin, l'après-midi et le soir aussi, ça fait du bien.
Quand Antonin remixe Polo and Pan dans la playlist du mois sur RFI autour de la question comment la science infuse et se diffuse. Pourquoi le soir, ça fait tant de bien de dormir? Et pourquoi souffrons-nous aussi d'un inquiétant manque de sommeil? Réponse à suivre dans Cerveau et Psycho après avoir ouvert la porte du sommeil avec Norman.
T'es sérieux là? Demain j'ai un rendez-vous important à 7h, faut absolument que je dorme.
Eh ben tu rentres pas.
Je te déteste. C'est vraiment la personne la plus nulle du monde.
J'espère bien.
Pourquoi j'arrive pas à dormir?
Plus tu t'énerves, moins tu pourras entrer.
Pourquoi tu me réveilles?
Bah, j'essaie de dormir, là.
Bah, dors alors.
Attends, attends.
Quoi encore?
Tu veux pas me tenir un petit peu compagnie? Peut-être ça m'aiderait à m'endormir.
Cécile Estienne, comment et pourquoi aider Norman à s'endormir? Et quels sont les effets de cet inquiétant manque de sommeil dont on souffre tous et pas seulement les jeunes youtubeurs comme Norman qui ont le nez rivé sur leurs écrans?
Absolument. On a voulu revenir sur le sommeil, pas sur les problèmes d'insomnie qu'on nous avons déjà abondamment traités et qui est effectivement un vrai problème du siècle. Mais un autre problème du siècle, c'est le manque de sommeil tout court, pas forcément lié à l'insomnie, mais parce que nous dormons beaucoup moins. Selon certaines études, depuis le début du XXe siècle, on dort entre 2 et 3 heures de moins par nuit quand même.
Voilà. Donc c'est quand même oui, c'est important.
Alors c'est lié à nos... vraiment beaucoup à nos modes de vie. D'abord parce que nous avons l'électricité, donc la lumière très tard, parce que nous regardons des écrans très tard, et puis parce que nous faisons passer toujours notre vie sociale et professionnelle avant le sommeil. Et donc c'est pour ça aussi que nous dormons moins. Mais justement, quels sont les effets du manque de sommeil sur l'organisme? C'est ça que les deux chercheurs allemands qui ont fait ce papier...
Le manque de sommeil et la fatigue affectent notre cerveau, hein,
voilà,
c'est ça.
Voilà, exactement. Alors le sommeil, c'est un domaine fascinant d'ailleurs parce qu'on ne sait pas exactement très bien pourquoi on dort. Mmh. On sait très bien qu'on doit dormir. Ça, c'est très facile.
On sait bien qu'on se sent mieux après, voilà, une fois qu'on a bien dormi.
Oui, oui. Et puis même que si on ne dort pas du tout, vous savez, c'est une forme de torture. On peut aller très très loin en empêchant quelqu'un de dormir jusqu'à la mort. Donc, mais même si on n'a pas d'hypothèse globale qui explique vraiment pourquoi on dort. Et ce que ces chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont fait des études. Si on est de mauvaise foi, on peut dire qu'ils sont un petit peu sadiques, mais ils ont fait des études avec des étudiants en les empêchant de dormir, pas en les empêchant complètement de dormir, mais en faisant des nuits très courtes, 5 heures, 6 heures, voilà, et puis en mesurant après, derrière, quelles étaient leurs capacités cognitives. Donc, voilà, avec des tests très simples, vous savez, vous regardez des lettres sur un écran, et puis on vous demande à l'écran d'avant quelle lettre c'était, ou des tests d'attention aussi. Vous devez cliquer à chaque fois que vous voyez une montre apparaître sur l'écran. Et donc là, automatiquement, automatiquement, ils peuvent mesurer votre temps de réaction, combien de temps, millisecondes vous avez pris pour appuyer, ou même que vous n'avez pas vu la montre parce que votre attention a... Et ils ont montré que, effectivement, ce qui n'est pas un scoop, mais évidemment, c'est que, effectivement, après plus. Il suffit de 4 nuits avec 5 heures de sommeil pour voir ses capacités cognitives s'affaiblir grandement.
Mais c'est véritablement grandement, un effet. Voilà. Hein, ouais.
Et donc, ce qui pose un problème. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en général, les participants à ces expériences ne se rendent pas compte qu'ils sont aussi fatigués que cela. Ça fait bien qu'ils soient fatigués, mais ils pensent que malgré la fatigue, ils tiennent le choc. Voilà. Et c'est un souci, hein, notamment parce que je vais faire ma petite minute de sécurité routière.
Oui, on ne se rend pas compte qu'on aurait besoin de s'arrêter, de se reposer.
Vous savez
et de
que c'est une des causes principales d'accidents de voiture, je crois même devant l'alcool aujourd'hui. Et donc la sécurité routière, à chaque fois qu'il y a des grandes transhumances estivales, nous rappelle qu'il faut dormir avant de prendre la voiture et faire un long trajet. Et évidemment, tout le monde se couche à 2h du matin pour faire ses valises et se lève à 4 pour éviter les embouteillages. Et bien voilà. Et effectivement, ils ont montré que les capacités cognitives vraiment baissaient vraiment. Et d'ailleurs, ils cite deux accidents, l'accident nucléaire de Three Mile Island et puis l'Exxon Valdez aussi, le pétrolier, où les enquêtes postérieures ont montré que c'était lié à un manque de sommeil des personnes.
Vous citez d'ailleurs, il y a un article, un encadré en tout cas, qui parle du coût exorbitant de notre manque de sommeil. Je crois que c'est une drôle de manière aussi de nous l'amener, mais ça a un coût, ce manque de sommeil sociétal, on va dire.
Oui, c'est un petit jeu de chercheurs d'essayer de chiffrer ce que ça veut dire. Mais effectivement, si vous prenez en compte toutes les incidences du manque de sommeil, parce que dans le papier aussi, on explique pourquoi ça a tellement d'influence sur la santé, pas uniquement sur vos capacités cognitives, mais sur la santé. Vous savez, le manque de sommeil, une grande étude américaine l'a prouvé, est franchement étroitement lié avec le diabète, l'hypertension, la dépression et le surpoids.
Donc il faut dormir, il faut les coucher là.
Donc c'est vraiment, ça a un coût pour la société. Bon, après vous rajoutez justement les accidents de voiture, vous rajoutez le manque de productivité des gens qui travaillent ou qui réfléchissent, ou les deux en même temps. Tout ça. Puis, vous essayez aussi d'estimer, c'est plus un jeu de chercheurs, le manque de bien-être, parce que c'est fatigant d'être fatigué. Enfin bon, comme tout le monde le sait, c'est assez désagréable. Et oui, on estimerait qu'en France, ça nous coûterait 100 milliards d'euros par an.
Donc il vaut mieux effectivement aller se coucher et dormir. Alors pourquoi et comment il faut dormir, même si, ça c'est Norman qui le disait, c'est pas parce qu'il faut qu'on y arrive. Le sommeil et le manque de sommeil en question, c'est dans Cerveau et Psycho de ce mois de septembre. Nous avons aussi quelques exemplaires à vous faire gagner pour les lire avant de vous endormir, bien sûr.
Tu pourras me dire tout ce que tu veux, sous tes faux rires et tes grands airs, c'est pas la peine, tu peux mentir à qui tu veux. Tu souris trop pour être heureux, tu me fais de la peine, je t'aime quand même moi. Je suis pas tes potes, ni ton boss ou tes collègues moi. Mais tu me prends vraiment pour un con, tu crois que tu m'endors, mais même derrière ton masque, tes cernes en parlent encore. Tu n'as pas sommeil, le froid, la soif, la dalle, t'as tout mais tu n'as pas sommeil. Ta mère, ta femme, ta fille, y'a nous, mais tu n'as pas sommeil. Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous, mais tu n'as pas sommeil. La vie, santé, bonheur, avoue que tu n'as pas sommeil. Si on sortait prendre l'air, au lieu de me prendre pour de la merde, prends-moi la main, sinon à quoi on sert nous, à part faire la fête. Mec, je l'ai assez faite moi, on se voit demain. Mais si je comptais, je compterais pour toi. Je te compterai mes histoires, je compterai les moutons pour toi. Et si je comptais, je compterais pour toi. Je te compterai mes histoires, je compterai les moutons. Mais tu n'as pas sommeil, le froid, la soif, la dalle, t'as tout mais tu n'as pas sommeil. Ta mère, ta femme, ta fille, y'a nous mais tu n'as pas sommeil. Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous mais tu n'as pas sommeil. La vie, santé, bonheur.
Sommeil ou pas sommeil, Stromae sur RFI. Autour de la question comment la science, les neurosciences infusent et se diffusent des laboratoires jusque dans les écoles. C'est un des gros sujets de cette rentrée. Pourquoi et comment apprendre grâce aux neurosciences, grâce à notre meilleure connaissance du fonctionnement du cerveau. C'est le dossier de la recherche de ce mois de septembre. Les sciences cognitives à l'épreuve des classes.
Comment est-ce qu'on voit? Comment est-ce qu'on réfléchit? Comment est-ce qu'on apprend?
Pourquoi un projet d'éducation par la recherche en neurosciences ?
J'aimerais beaucoup devenir une chercheure parce que maintenant j'ai appris plein de choses sur le cerveau.
Nous aussi, on espère qu'on va apprendre plein de choses sur le cerveau avec vous, Philippe Pageot. Pourquoi et comment mettre les sciences cognitives à l'épreuve des classes dans la recherche ? Vous vous êtes intéressé à toutes ces pistes, à toutes ces nouvelles méthodes d'apprentissage issues des neurosciences.
Tout à fait, ça rejoint tout à fait ce que Cécile disait, notamment, il faut notamment, un des apports de neurosciences, c'est qu'il faut dormir déjà.
C'est fondamental pour le cerveau et pour bien apprendre. Hein.
Voilà, donc en cette semaine de rentrée, ce numéro de rentrée, effectivement, on s'est dit qu'on allait parler d'éducation et de l'apport de ces sciences cognitives à l'éducation de nos enfants. Il y a en fait énormément de choses qui ont été faites en laboratoire, mais plutôt dans le monde anglo-saxon, bizarrement pas trop en France. C'est ce qu'on appelle evidence-based education, éducation fondée sur des données probantes, une démarche qui nous vient du Royaume-Uni et des États-Unis. C'est une démarche qui se fonde d'abord sur des analyses et des méta-analyses, mais aussi sur des expérimentations de neurosciences et de sciences cognitives. Donc en fait, ce qu'on essaie de faire là, c'est en fait rejoindre les mêmes standards que pour les essais cliniques qui visent à tester l'efficacité d'un médicament, en prenant des groupes témoins, groupes tests, randomisation et en comparant effectivement des résultats.
Pour viser l'efficacité des sciences, des neurosciences cognitives. Exactement. pour la pédagogie, l'éducation, l'apprentissage.
Alors pourquoi ça ne s'est pas fait en France? En tout cas, il n'y a pas une histoire en France aussi longue que dans le monde anglo-saxon. Alors peut-être parce que les centres d'éducation traditionnels n'avaient pas cette culture pragmatique qu'on connaît ailleurs, mais justement c'est en train de changer et j'en veux pour exemple effectivement ce conseil scientifique de l'éducation nationale dont Stanislas Dehaene est...
Le chercheur en neurosciences Stanislas Dehaene qui sera d'ailleurs lundi notre invité autour de la question de l'apprentissage.
Voilà,
justement.
Donc vous pourrez en reparler. Alors tout ça part en fait d'un livre qui a été publié en 2009 d'un professeur de pédagogie en Nouvelle-Zélande, qui a publié un livre avec 800 méta-analyses sur 50 000 études portant sur 80 millions d'élèves. Alors là, on peut dire que c'est la méta-méta-analyse. Hein. Mmh. Du coup, il y a beaucoup de choses.
Il y a du monde.
Ouais, il y a du monde. Et du coup, il y a eu plusieurs fondations qui ont été créées, notamment en Grande-Bretagne, aux États-Unis, avec des moyens importants qui ont été débloqués par les gouvernements britanniques, notamment. Ce qui fait que, en Angleterre, par exemple, 59% des directeurs d'établissement utilisent en fait ces résultats.
Mais vous vous posez quand même la question dans la recherche, savoir comment on change d'échelle, parce qu'il y a ces résultats, mais comment on passe du labo à la classe, quoi.
Exactement.
C'est quand même entre une expérience de neurosciences et puis la vraie vie d'une classe d'école, c'est peut-être pas tout à fait la même chose.
Alors est-ce que c'est transposable effectivement à grande échelle? Parce que toutes ces expériences qui marchent assez bien en général quand on est dans des petites classes, des petits effectifs de 40, centaines d'élèves, comment passer à 1000, 2000 et encore 1000, 2000, évidemment, c'est pas des échelles énormes ou l'échelle d'un département. Alors je voulais juste revenir sur quels étaient les résultats effectivement que les sciences cognitives nous ont apportés et que toutes ces études ont apporté. C'est d'abord c'est que le redoublement n'a pas d'effet positif sur la réussite scolaire.
Ça, c'est... Donc c'est pas la peine de redoubler.
Pas de redoubler.
Ça, c'est les neurosciences qui le disent, d'accord.
Voilà, que la métacognition a des effets très bénéfiques sur le résultat. Alors la métacognition c'est quoi? C'est capacité à évaluer son propre apprentissage, son fonctionnement cognitif. Conséquence, par exemple, un exemple de ça, c'est quand les élèves apprennent à d'autres élèves. Quand on apprend à d'autres élèves, on apprend...
Plus vite et mieux.
Et on se rend compte mieux de ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Pareil pour la mémorisation. On parlait de mémoire tout à l'heure. La meilleure façon d'apprendre, c'est pas de relire et de relire, relire, relire une leçon, c'est de lire, tester, se tester, faire des tests de manière... panier régulière.
Et dormir entre les deux. Hein,
dormir également pour la mémorisation. Effectivement, le sommeil est très très important. Mais également le fait que le retour d'information a un effet bénéfique. Hein, le fait d'indiquer systématiquement aux élèves ses succès, mais aussi ses erreurs. d'en expliquer les raisons, hein, plutôt que de corriger a posteriori. C'est assez différent, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on fait des exercices, et puis une semaine après, on les corrige. Là, c'est assez différent, c'est de revenir directement sur
au moment même. De l'échec ou de la réussite.
Voilà. Alors, il y a des expériences qui sont faites quand même, qui sont faites en France, justement, pour faire ce passage à l'échelle, mais qui, pour l'instant, en France, en tout cas, ne marchent pas, n'ont pas marché très très bien, faut le reconnaître. Peut-être la raison...
Sur les élèves ou pour les professeurs?
Alors, en tout cas, le résultat à grande échelle, les expériences à grande échelle n'ont pas donné des résultats aussi probants que ce qu'on faisait sur des petits effectifs. Peut-être que, effectivement, il y a un problème de formation des enseignants qui doit être formé à la méthode expérimentale, et c'est peut-être une des choses qu'on pourrait retenir, et une des injonctions qu'on peut dire, c'est expérimenter, puis former les enseignants au sens expérimental et expérimenter.
On en reparlera, vous l'avez dit, donc lundi avec Stanislas Dehaene. Ce sera autour de la question pourquoi est-ce que notre cerveau apprend mieux que celui d'un ordinateur. Donc vous voyez, on fera la différence entre les deux. J'aimerais bien aussi dire un petit mot sur le rôle des émotions dont vous parlez, le rôle des émotions dans l'apprentissage, parce que ça, on s'en rend moins compte, et c'est aussi un apport des neurosciences.
Alors effectivement, on avait déjà fait d'ailleurs, j'étais venu ici parler d'un dossier sur les émotions que j'avais fait. On sait que les émotions sont gérées dans le cerveau par l'amygdale, et ces structures en fait profondes se connectent à de nombreuses structures dans l'hippocampe qui est indispensable à la mémoire et l'attention. Du coup, en jouant sur les émotions relatives à la connaissance, on peut booster l'attention et la mémoire des enfants. Mais au contraire, il faut faire attention parce qu'il y a d'autres émotions qui peuvent être délétères pour l'apprentissage. Donc, il faudrait du coup apprendre à réguler ses émotions à l'école.
Bonne proposition en cette rentrée, apprendre à réguler ses émotions à l'école. Les sciences cognitives à l'épreuve des classes. C'est donc le dossier de la recherche ce mois de septembre que vous pouvez recevoir si vous nous le demandez, en précisant bien à mes auditeurs votre adresse postale. Quelques numéros sont encore à gagner. Et je vous rappelle donc que lundi prochain, nous recevrons Stanislas Dehaene autour de la question pourquoi notre cerveau apprend plus vite que les machines. On écoute Charlotte Gainsbourg sur RFI IRM.
Autour de la question.
Charlotte Gainsbourg dans l'IRM sur RFI, avant que le ciel, ou plus exactement l'astéroïde Bénu, ne nous tombe sur la tête. Mathieu Novak, gros plan en sciences et avenir sur la sonde Osiris-Rex de la NASA, qui a plusieurs missions, mais notamment empêcher cet astéroïde de nous tomber sur la tête, c'est ça?
Oui, on parlait tout à l'heure des calculs de trajectoire dans l'espace, et on en est tout à fait, c'est tout à fait encore la question, c'est qu'on a un astéroïde qui a pas énormément de chance, une chance sur 2700 de nous tomber dessus entre 2175 et 2199.
Bon, on a le temps de s'y préparer normalement.
On a le temps, mais bon, il faut quand même y aller. Et alors ça fait partie des choses absolument extraordinaires, justement, de calcul de trajectoire, c'est qu'il y a 2 ans, on a lancé cette sonde qui se trouve à la bagatelle de 180 millions de kilomètres de chez nous, et qui là vient de se positionner à peu
à 5 km de la surface. Donc pendant les 18 mois qui viennent, elle va se rapprocher jusqu'à à peu près 220 mètres.
De cet astéroïde-là.
De cet astéroïde, de la surface. Et en 2020, va déployer un bras de 3 mètres de long. Et pendant juste 5 secondes, va prendre des petits échantillons et nous les rapporter d'ici 2023.
Donc. On entend voilà. beaucoup de ces échantillons. D'abord, c'est complètement fantastique comme idée. Et ces échantillons, en plus, ils vont nous apprendre énormément de choses.
Alors, c'est une comète, un astéroïde pardon, qui est très intéressant parce que ça fait partie de cette famille d'astéroïdes qui s'est formée avec les mêmes éléments qui ont permis de fabriquer la Terre, les autres planètes du système solaire et le Soleil. Donc, c'est en fait une sorte de mémoire de comment étaient des matériaux du départ et de ce qu'il va y avoir dedans. C'est assez intéressant parce qu'on se demande s'il va y avoir beaucoup de molécules de l'eau, c'est en fait des briques du vivant. Est-ce que ça peut nous expliquer l'origine du vivant? Donc on veut se rapporter des petits morceaux et pour pouvoir les étudier, mais en attendant, on va déjà étudier aussi la trajectoire pour voir si à un moment, il ne faudrait pas dévier cet astéroïde.
Grâce à la sonde OSIRIS-REx de la NASA, pour en savoir plus, c'est donc dans Science et Avenir, on va rester dans les astres un peu mystérieux pour plonger à l'intérieur, enfin au cœur même, des étoiles à neutrons, Philippe Pajot, dans la recherche.
Alors, c'est même pas mystérieux, c'est très très mystérieux.
Ah oui, hein.
Et c'est complètement étonnant, puisque d'abord que le cœur de ces étoiles à neutrons a une densité qu'on ne peut même pas imaginer. Prenez un millimètre cube d'étoile à neutrons, ça pèse comme 300 tours Eiffel.
Donc je sais pas si vous voyez. Un millimètre cube, 300
tours Eiffel. Vous voyez, donc c'est quand même. On est dans des densités.
Les objets les plus denses.
Alors, il y a aussi les trous noirs, n'est-ce pas? Sinon, à part les trous noirs, c'est effectivement les endroits les plus denses de l'univers. Et justement, comme ça a ces densités absolument étonnantes, on n'a aucune idée de comment
de ce qui se passe à l'intérieur.
De ce qui se passe à l'intérieur. Alors d'abord, les étoiles à neutrons, c'est pas quelque chose de complètement science-fiction. C'est des choses qu'on connaît bien. C'est des étoiles en fin de vie qui évoluent et qui, à la fin de leur vie, effectivement, se contractent et donnent cette espèce de cœur d'étoiles à neutrons. Alors pour donner une ordre de grandeur, ça pèse à peu près une à deux fois la masse du Soleil et ça mesure une vingtaine de kilomètres de diamètre. Donc un truc, vous imaginez, un truc gros comme Paris qui a à peu près la masse du Soleil.
Et on peut commencer à percer un peu, enfin lever un peu le voile grâce aux ondes gravitationnelles.
Exactement. Alors jusqu'à ici, on était très, très embêtés, très démunis en fait, parce que la théorie, on ne sait pas la faire à des densités pareilles. L'observation, on ne peut pas aller voir ce qu'il y a au centre des étoiles à neutrons. Et une solution, c'est de se faire scogner deux étoiles à neutrons l'une contre l'autre. Coup de chance, c'est ce qui s'est passé. Il y a quelques années, il y a deux ans, enfin, en tout cas, on a détecté effectivement une collision d'étoiles à neutrons. Et les ondes gravitationnelles qui nous sont arrivées, qu'on a détectées sur Terre, nous ont commencé à nous donner des indications sur la taille et le rayon, la taille et la masse des étoiles à neutrons. Et du coup, on peut en déduire des choses sur ce qu'on appelle leur équation d'état, donc comment c'est fait à l'intérieur. C'est encore ouvert, la question n'est pas résolue. Pas de scoop aujourd'hui, je ne vais pas vous dire de quoi sont faits exactement les étoiles.
On sait ce qu'il y a à l'intérieur des étoiles à neutrons.
C'est des neutrons, des protons, peut-être une soupe de quarks et de gluons, peut-être des particules plus bizarres, des hyperons, des kaons, en tout cas. Avec la reprise des détecteurs d'ondes gravitationnelles à partir de janvier, avec un satellite qui va détecter l'émission X émise par les pulsars, qui sont l'émanation de ces étoiles à neutrons, l'année 2019, à mon avis, va être une grande année pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur des étoiles à neutrons.
Donc, en attendant 2019, on peut toujours se plonger dans la recherche, donc, pour en savoir plus sur l'intérieur et la recherche sur l'intérieur des étoiles à neutrons. Allez, on revient sur Terre pour s'intéresser. C'est à nos barrages hydrauliques, Caroline Tourbe, pourvu qu'ils durent, hein, parce que ce sont les piliers de notre système électrique et ils ne sont pas si solides que ça. Vous avez enquêté dans Sciences et
Vie. C'est une enquête de Vincent Noriga, en effet, sur les barrages, qui en France, on l'oublie encore trop souvent, sont un pilier essentiel aussi de la transition énergétique. Quand on pense transition énergétique, on pense immédiatement éolien, solaire, exactement. Or, les barrages, c'est eux qui garantissent actuellement la plus grande partie de l'énergie renouvelable. Et puis même si énergie du vent et du soleil vont prendre une part plus importante, ça restera central parce que actuellement pour stocker de l'énergie, il n'y a pas mieux que l'eau et pas mieux que les barrages.
On ne sait pas stocker recherche, le solaire et
ne sait pas. C'est-à-dire que si on n'a pas besoin de l'énergie qui est produite quand l'éolienne est en train de tourner, il faudrait avoir des super batteries qui sauraient super bien stocker cette énergie. Ça n'existe pas encore. En tout cas, c'est beaucoup moins bien qu'un barrage. Et un barrage aussi qu'on peut utiliser pour, bah, par exemple, stocker, faire remonter de l'eau quand on a trop d'énergie produite par de l'éolien. Et puis au moment où on aurait besoin d'énergie, il n'y a pas de vent, et bien là on lâche l'eau. Et cette eau qui a été remontée grâce à l'éolien, et bien elle va produire de l'électricité en passant dans les turbines du barrage.
De l'importance donc, voilà. De ces barrages donc, hydroélectriques.
Ça c'est pour vous présenter l'importance de ce sujet. Et c'est vrai que dans l'enquête de Vincent Neuriga, on voit qu'il y a plein de points importants, et notamment sur le vieillissement de ces ouvrages, de ces cathédrales. Il y a eu des alertes qui ont été lancées, les choses se sont améliorées, mais c'est vraiment quelque chose qui doit être inscrit dans le temps très très long, ce qui n'était pas forcément ce pourquoi ça avait été construit. Donc il faut veiller sur eux. La maladie du béton, on sait que ça peut faire des ravages. Il y a un pont qui s'est écroulé en Italie à Gênes. Enfin, donc c'est quelque chose, l'enquête ne dit pas que les barrages vont s'écrouler, l'enquête dit que c'est vraiment quelque chose qui doit durer plus encore que ce qu'on n'a jamais imaginé avant.
Et qu'il ne faut pas oublier les barrages, voilà, dans la transition énergétique. Alors, des barrages hydroélectriques, allez, la transition est bizarre. À d'autres barrages, dans notre tête, Cécile Estienne, dans Cerveau et Psycho, vous vous êtes demandé pourquoi nous n'avons pas de souvenirs de nos premières années, pas de souvenirs, en gros, avant 3 ans.
Alors, ce n'est pas un scoop hein, que nous n'ayons pas de souvenirs avant 3 ans. Ça fait une bonne centaine d'années qu'on a montré effectivement qu'en moyenne, avant 3 ans, on se souvient de rien. Et que si vous vous souvenez, si vous êtes sûr de vous souvenir de quelque chose qui s'est passé le jour de votre premier anniversaire, c'est probablement parce que vos parents vous l'ont raconté 100 fois et que du coup, c'est devenu un faux souvenir.
Ou qu'il y a une photo.
Et que vous appuyez là-dessus. Enfin bon, après, tout est toujours possible parce qu'en question cerveau, c'est toujours injuste. Mais non, la question là, c'est ce demander effectivement pourquoi on se souvient pas de très peu de choses avant ces 3 ans. Donc deux choses semblent rentrer en compte. D'abord le langage, évidemment.
Oui, quand tant qu'on ne parle pas, on a du mal à construire des souvenirs.
Oui, alors on a longtemps pensé que c'est parce que le cerveau était totalement immature des enfants qui pouvaient pas fixer de souvenirs. Et si vous fréquentez les enfants, ça, vous voyez que ça marche pas bien. Parce que oui, si, ils ont des souvenirs. C'est juste que si vous pouvez mettre des mots sur ce qui vous arrive, vous allez le raconter après avec des mots et donc vous allez vous souvenir plus longtemps. Si vous pouvez pas mettre de mots parce que vous avez juste des sensations, des perceptions, vous avez vu quelque chose, ressenti quelque chose, vous avez pas mis de mots dessus parce que vous étiez trop jeune, vous n'arriverez pas à vous souvenir juste avec les sensations et sans les mots. Voilà, donc c'est ça qui fait que vous allez avoir du mal à vous souvenir. Ensuite, c'est possible parce que le cerveau des enfants est en pleine reconfiguration. Il semblerait quand même que la neurogénèse, la nouvelle configuration des synapses efface les souvenirs avec beaucoup plus de facilité que chez les adultes jusqu'à ce qu'on arrive au grand âge.
Pourquoi n'a-t-on pas de souvenirs avant 3 ans? Réponse dans Cerveau et Psycho. Merci Cécile Estienne. Merci Caroline Tourbe, Philippe Pajot, Mathieu Nova. Qu'on se retrouve le mois prochain autour de vos magazines respectifs Science et Avenir, La Recherche, Science et Vie, Cerveau et Psycho. Nous avons peut-être encore quelques exemplaires à vous faire gagner par mail ou sur notre page Facebook Avis aux amateurs. Merci à Hugo Fiolas pour la réalisation de cette science infuse et qui se diffuse très bien sur nos ondes. Merci à Caroline Fillette en coulisses. Dans quelques instants, ce sera l'heure d'un prochain journal sur RFI.